Bonjour, bienvenue sur RCF Poitou. Merci d'être fidèle à votre rendez-vous hebdomadaire de Pause Famille, l'émission du service des familles du diocèse de Poitiers. En mettant nos enfants au monde, nous rêvons tous que ce monde soit le plus merveilleux possible pour eux. Nous voudrions tellement leur faciliter la vie. Mais c'est sans penser aux aléas de la vie qui mettront à mal toutes nos bonnes intentions. Ne chercheront-ils pas une béquille pour avancer dans la vie? Celle-ci pouvant être le tabac, l'alcool, les drogues, le sexe, le jeu, les écrans, etc. Nous sommes avec Sophie Delourme. Alors, je n'ai pas su vous présenter.
Bonjour Marie-Vonne. Sophie Delourme, donc je suis thérapeute en addictologie.
Thérapeute en addictologie, oui. Donc elle va répondre à nos questions. À partir de quand est-on addict? Comment s'en sortir? Et pour finir, quelques conseils aux jeunes parents pour éviter que. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une addiction?
Ah, une addiction, c'est lorsqu'une personne consomme des produits psychoactifs. Ces produits psychoactifs, comme vous le disiez dans la présentation, c'est les plus connus, tabac, alcool, cannabis, hein, les produits illicites comme le cannabis et bien d'autres produits. Et ça peut être aussi des conduites addictives, hein, le grattage de jeux de hasard, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le sport, oui. Etc.
Sport aussi?
Oui, ce qu'on appelle la bigorexie. Tout est une question de dosage. En addictologie, on aura l'occasion de le redire. Mais oui, dès l'instant où cette personne consomme des produits psychoactifs ou a une conduite addictive et en perd le contrôle, tout en sachant que c'est délétère pour sa santé. Dès l'instant où c'est pas bon pour sa santé. Donc la personne, à un moment donné, il y a un excès par rapport à une consommation de produits. Oui. Elle va en chercher quelque chose. Nous, un accompagnement d'addictologie, c'est important avec les patients de comprendre quelle est la fonction du produit ou de la conduite dans sa vie. Donc ça, c'est la définition d'une addiction avec le dernier DSM-5, hein, qui est un peu la bible des psychiatres, et avec la classification internationale des maladies. Voilà, le propre d'une addiction, c'est que j'en perds le contrôle, j'ai une compulsion à consommer un produit ou une conduite addictive, et j'ai le fameux craving. Un petit mot anglais né de l'équipe bordelaise il y a X années en arrière, le fameux craving, un anglicisme qui dit au patient qu'à un moment donné, il essaie de se contenir, mais c'est plus fort que lui, qu'elle, le produit est plus fort, la conduite est plus forte. Donc ce fameux craving, il y a une envie irrépressible de consommer. Donc ça peut durer 10 minutes en alcoolologie, ça dure une minute en tabacologie, mais c'est long pour un addict.
C'est-à-dire que pendant une minute, j'ai envie d'une cigarette, montre en main, c'est-à-dire qu'au bout d'une minute, si je tiens bon, j'aurai plus envie de ma cigarette.
Ah, c'est compliqué d'un patient à un autre, hein, c'est très différent. Mais en moyenne, surtout au niveau de l'alcoologie, ça a été prouvé, le craving dure 10 minutes, c'est très long pour les consommateurs. Mais montre en main, oui, c'est peut-être plus en alcoologie, mais voilà, ça peut durer ce temps-là. Donc si la personne arrive à détourner quand elle fait son sevrage, quand elle travaille sur elle, on en reparlera dans l'accompagnement. Voilà, si elle arrive déjà à passer ces 10 minutes-là et que son cerveau va se détourner sur autre chose, c'est un travail comportemental à apprendre chez le patient, c'est déjà énorme. C'est comment, en fait, l'objectif après dans le soin, c'est comment devenir indifférent à tous ces produits et à cette conduite pour retrouver un rétablissement et un équilibre de vie. Mais ça, c'est un long chemin.
Est-ce que c'est toujours le même profil de gens que vous avez en face de vous quand vous essayez de les sevrer de leur...
Mais je pense que quand on parle en donnant la définition de l'addiction, je pense que c'est important de préciser. Je pense qu'en France, on l'a intégré quand même depuis pas mal d'années. Ça reste une maladie chronique. Donc d'autres vont avoir de l'hypertension, d'autres vont avoir du diabète. Ben, on a aussi nos addicts qui sont dans cette maladie chronique. Mais maladie chronique, faut pas non plus que le patient se planque derrière, quoi. Maladie chronique, c'est aussi, il y a un libre arbitre chez le patient à un moment donné pour choisir une autre vie. Non, on n'a pas un profil comme il n'y a pas un même patient dans le diabète ou autre chose. Chaque patient a une histoire particulière avec le produit. Et de ce qu'on appelle, nous, l'anamnèse, quand on rencontre un patient, on dépose cette histoire-là. Hein, c'est me raconter cette histoire avec le ou les produits ou la conduite addictive. Après, je dirais que le dénominateur commun, c'est les comorbidités psychiatriques, quoi. C'est pas très sympa comme terme. On a un peu le groupe des patients qui ont des problèmes thymiques, Hein, la thymie, c'est l'humeur.
Ah, de l'humeur, d'accord.
Voilà, donc on peut avoir des patients dépressifs, des patients bipolaires. On les raconte beaucoup, entre autres, en alcoolologie. Hein, on a des patients qui ont des troubles de la personnalité. On a des patients qui revendiquent leur addiction, hein, qui sont, j'ai plus le terme en tête, mais on a des patients borderline, hein, un peu tout ce qui est un peu état limite. Et on a des patients, depuis pas mal d'années, on parle maintenant du TDAH. Il est repéré à Labourie. Il y a des équipes qui s'en occupent. On rencontre souvent maintenant des adultes addicts pour qui on peut faire un diagnostic du trouble de l'attention. Et c'est des gens qui ont souffert toute leur vie, qui ont mis des choses beaucoup en échec. Alors, je suis pas une spécialiste du TDAH, hein, Marie-Vonne,
mais ça fait partie
des comorbidités chez nos patients addicts. Donc je dirais le dénominateur commun, ils ont tous, chacun a son histoire de vie à nous raconter, mais le dénominateur commun, on a quand même, faut pas l'oublier, c'est pour ça que c'est une maladie cyclique, il y a un process dans les addictions. C'est des personnes qui mettent du temps, hein, à se soigner, ce sont des personnes qui échappent souvent psychologues. Parce qu'ils sont dans l'évitement, parce qu'ils fuient à travers leurs produits ou leurs conduites addictives. Donc, taillot, les psychos ne les voient pas.
Ah, c'est-à-dire que le jour où, par exemple, il y a des psychologues scolaires, ils vont être clean et ils vont être...
Ah, les psychologues scolaires, après, c'est pour les petits qui vont... Les psychoscolaires, voilà, c'est qu'en primaire. Par contre, la psychoscolaire, ce qui est intéressant chez les psychoscolaires, elle peut quand même pressentir un problème de trouble de l'attention, un trouble du comportement chez l'enfant. Et ça permettra à ces personnes-là, jeunes élèves, de pouvoir être opérées très jeunes et d'avoir un diagnostic, comme ici à Poitiers, ce sera le centre Labourie, où on pourra faire un diagnostic du TDAH, du trouble de l'attention pour l'enfant. Après, moi, je parlais aux adultes, c'est une patientèle qui est dans l'évitement, c'est une patientèle qui sublime, qui est dans la sublimation, c'est une patientèle qui va contourner tout ce qui est psychologique pour continuer à consommer.
Ben oui, mais si on en a besoin, vous comprenez bien que... Il faut être plus malin.
On ne juge pas. Ben, nous, on a un principe en addictologie, c'est qu'on ne juge
non,
pas.
Non, mais je ne jugeais pas, mais, non, mais c'est vrai que c'est... J'allais dire, ça se comprend.
Ben, on va vers ce qu'il y a de plus facile. Et ce qu'il y a de plus facile... Alors, des fois, rechercher un produit et le payer, c'est compliqué. Mais... Le plus facile à un moment donné, c'est de lever le coude et de boire, c'est d'allumer une cigarette ou un joint, c'est d'aller consommer dans des soirées pour sentir mieux. Pour, voilà. Quelle est la fonction du produit? C'est vraiment, je dirais, la comorbidité et la fonction du produit chez ces patients-là, c'est central.
Est-ce qu'il n'y a pas des périodes de la vie qui sont plus propices? Ou des marches de la vie plus difficiles à monter.
Oui, si on se rend compte en faisant, en pensant à des patients, à quel moment ils ont pu rencontrer le produit, je pense qu'on a une fragilité de prime abord qui est l'adolescence.
Oui.
Hein, je sais qu'on a un excellent psychiatre qui s'occupe de la maison des adolescents sur Poitiers. C'est une fragilité de construction de la personnalité où on peut être influencé par des personnes à droite et à gauche. Et ça reste fragile puisqu'on se rend compte qu'il y a des installations de produits qui se font autour de la vingtaine. À 25 ans, tabac ou alcool, ils s'adorent tous les deux, hein, et ils continuent ensemble.
Oui, et donc, puis j'allais dire, c'est une progression... géométrique et pas arithmétique, c'est-à-dire que les deux ensemble, c'est...
Vous
confirmez, voilà.
Je confirme. Donc, je pense qu'il y a cet âge-là, et après, la vie, elle passe par là, et tout à chacun, on a nos épreuves de vie. Je pense qu'il y a des accélérations. Peut-être qu'il y avait déjà des choses installées, mais pas révélées. Et je pense qu'un chômage, une séparation, un deuil, les épreuves qu'on peut vivre dans nos vies, la perte d'un être cher, je pense que ça nous fragilise et puis qu'on va chercher une béquille à un moment donné. Il faut le dire quand même haut et fort, hein, l'alcool, on est un peu hypocrite en France par rapport à ce produit parce qu'il est culturel, il rapporte aussi des sous-sous, mais l'alcool reste un anxiolytique gratuit, pas cher, qu'on va chercher au supermarché.
Une femme enceinte, je vais vous raconter pourquoi je vous pose la question. Ouais. J'ai une amie l'autre jour, donc elle est grand-mère, et avec le grand-père, il se demandait si, comme la maman a l'habitude de fumer un joint, si le petit-fils qui a 10 ans, si c'est pas parce que sa mère a fumé qu'il est un peu violent, qui remue, qui etc.
Non, par contre, je pense qu'il faut le dire et le redire. Hein. On a mis du temps en France à mettre le petit pictogramme interdit femme enceinte sur les bouteilles d'alcool. c'est long, c'est une bataille que fait France Addiction en France. Il est tout petit en bas des bouteilles. Il y est quand même, c'est déjà pas mal. Après, au niveau du cannabis, j'assistais dernièrement, c'est un colloque Coréade, qui est bien connu maintenant, Nouvelle-Aquitaine, qui fait un travail de formation, de sensibilisation aux addictions. C'était sur la périnatalité.
Oui.
Je pense que les CHU essayent d'avoir aussi des personnes sensibilisées à la périnatalité. Oui, on sait très bien qu'il faut déconseiller alcool, tabac et tout produit. Quand on discute, moi j'ai pu discuter avec des sages-femmes, le tabac, les femmes en parlent facilement.
Alors ça... Oui, parce que maintenant, il y a du terrorisme intellectuel anti-tabac. Donc, si vous avez même une cigarette dans votre poche éteinte, on va vous tomber dessus.
Oui, on a fait ce chemin-là en France. Oui, après, il y a des personnes qui vont continuer à fumer de façon, on va dire, raisonnable. Après, c'est toujours pareil, c'est le libre arbitre des personnes. Mais la femme enceinte, elle a une double responsabilité pour elle et pour...
Et pour le bébé,
et
oui.
Et pour le bébé. Et je pense qu'alcool et tout produit est vraiment interdit. Donc, beaucoup de femmes le font. Et les sages-femmes, le tabac, elles en parlent facilement, les femmes. Mais au niveau de l'alcool, ça reste encore un tabou. Il reste encore une honte. Quand je définissais tout à l'heure les addictions, j'aime bien dire aussi que c'est une maladie du lien, des attachements. Les personnes n'ont pas été assez attachées. C'est une maladie du lien, des émotions. Bon, on en parle beaucoup maintenant.
Du lien et de l'attachement.
Ah, j'aime beaucoup.
Oui. Non, mais c'est intéressant.
Non, mais j'aime beaucoup je pense qu'on peut donner des références. Le psychiatre Bowlby a beaucoup travaillé sur les attachements, Bowlby. Et j'aime beaucoup, je l'avais lu il y a plus de 10 ans en arrière, et on en parle mieux maintenant au niveau des attachements, parce qu'on, c'est un peu comme les résiliences avec Cyrulnik dans les années 90. Après, ça a été complètement galvaudé, et on en a parlé un peu à tort et à travers. Mais je pense qu'on a des êtres qui n'ont pas été sécurisés. On a des êtres en addiction, voilà. C'est pour ça qu'il y a des comorbidités, mais des êtres qui n'ont pas été assez sécurisés dans leur petite enfance, des liens sécures et tout. Je pense que c'est des maladies des émotions. On en parle beaucoup dans le développement personnel. C'est un peu la tartine à la crème. Mais c'est aussi une maladie de la honte. Je pense qu'on retrouve beaucoup ça en alcoolologie.
La honte pour l'alcool plus que pour le tabac.
Oui. On n'a pas la même histoire. Et ça, c'est fascinant en anthropologie, en sociologie.
C'est
vrai? Ah, mais c'est fascinant parce que le tabac ne modifie pas votre conscience. Et l'alcool va le modifier.
Moi, je dis toujours, ce terrorisme anti-tabac m'insupporte parce qu'il n'y a aucun mari qui a tapé sa femme parce qu'il a fumé en 5 minutes tout son paquet de cigarettes, alors que s'il boit comme ça, cul sec, comme on dit, une bouteille de... ne serait-ce que de vin.
Oui, je pense qu'il n'y a pas les mêmes effets en fonction du produit. Le tabac, on en a fait un peu une guerre parce qu'on a eu beaucoup de décès. Et les décès au niveau du tabac sont repérables, où on aura de prime abord le cancer du poumon ou de l'emphysème, en moindre pire, j'oserais dire, entre guillemets. Mais au niveau de l'alcoolologie modifie votre conscience au niveau cérébral et automatiquement, on a moins de décès en alcoolologie, mais on est très hypocrite. J'écoutais le congrès de la SFA, la Société française d'alcoolologie, en mars dernier. C'était un épidémiologiste qui intervenait en disant, soi-disant, qu'on sous-évalue les décès liés à l'alcool en France.
Bon, écoutez, sur ces paroles-là, on va peut-être écouter Bach.
Oui, merci.
Le concerto BWV 974. Sophie, nous vous retrouvons tout à l'heure.
À tout de suite.
Voilà, nous sommes toujours dans l'émission Pause Famille, c'est toujours sur RCF Poitou. Et nous sommes avec Sophie Delourme qui vient nous parler d'addiction. Est-ce qu'un beau jour, on se réveille et on est devenu addict ou c'est progressif, insidieux?
C'est insidieux, bien entendu. Enfin, c'est mieux. Non, c'est comme ce que je dis souvent, il y a l'initiation, il y a l'installation et la répétition. Donc, dans l'initiation, en fonction des produits, ça peut être l'alcool est très familial en France, hein, les repas, les anniversaires, les mariages et tout. Et, tout est propice à pouvoir échanger et boire un coup, j'oserais dire.
Camille Kouchner, elle a dit, il y a des familles incestueuses. Est-ce qu'il n'y a pas, on ne peut pas faire le parallèle justement avec des familles un petit peu alcoolo?
Oui, vous le dites bien. Vous le dites bien, Marie-Vonne. Oui, dans ces initiations-là, après, il y a pourquoi certaines personnes vont aller vers les addictions ou non. Et on a quand même des familles, quand on fait l'anamnèse du patient, hein, comme je disais précédemment, qu'on revoit un peu leur histoire, on se rend compte qu'il y a toujours un père ou une mère ou un oncle ou un grand-père qui est addict. Automatiquement, il y a toujours eu un excès de produits dans ces familles-là. Il y a toujours eu aussi à côté, on peut tragiquement aussi rencontrer pas mal de suicides ou de problèmes psy. Donc, les patients n'ont pas toujours connaissance. Et une petite parenthèse, je trouve toujours fascinant pour le patient ce qu'on appelle le génogramme.
Oui.
Hein, ça peut faire partie aussi du soin de retricoter son histoire et de retourner en arrière et de se rendre compte un petit peu quels étaient les enjeux, les interactions psycho-affectives entre les membres d'une même famille. Et je trouve que le patient, ça lui raconte beaucoup de choses et ça peut aussi beaucoup lui permettre de se reconstruire en retricotant sa propre histoire d'où il vient.
Alors là, vous venez de dire, il y a souvent, vous avez en face de vous une personne qui est addict à l'alcool, vous dites que souvent il y a un père, un grand-père, etc.
La plupart du temps.
Et quand même, de voir quelqu'un qui tient plus debout, qui titube, qu'on va ramasser parce qu'il est tombé dans la cour... ça dégoûte pas, ça?
Dans les familles?
Oui.
Ça n'a pas l'air de dégoûter. Ça fait partie de l'histoire familiale. Je pense que ce sont des familles qui... Après, c'est de la systémique, hein, comme on dit. Chaque famille a son mode de fonctionnement, son mode de système. Et dans certaines familles, il y aura toujours un personnage qui peut-être va détonner, sera un peu le canard boiteux, comme on dit. Hein, et après, peut-être on peut avoir ce père ou ce grand-père, ça dépend à quelle génération, hein, qui peut tituber ou autre, et ça fera partir de la culture familiale.
Et on n'a pas envie de faire un copier-coller, enfin de se dire, justement l'anti-copier-coller, et de se dire quand même, se retrouver comme ça le soir titubé parce que toute la journée on a levé le coude, c'est quand même pas glorieux.
Non, je pense qu'après, après on peut avoir un jugement moral, et je pense qu'en addictologie, et encore beaucoup l'alcoolologie, la toxicomanie fait encore peur, mais il y a toujours ce côté un peu de l'ivrogne, hein, l'ivrogne du village ou autre, les piliers de bar. Bon, maintenant, il n'y a plus de bar dans les campagnes, mais c'est
oui,
simple.
Oui, mais en fait, ça fait rigoler.
Oui, c'est comme celui qui chute, la chute fait rire.
On va être le premier à rire quand quelqu'un tombe, mais on veut pas être, on n'a pas envie d'être celui qui tombe et dont les autres se moquent.
Oui, bien sûr.
Ça devrait servir de leçon.
Non, parce que l'addict n'est plus lui-même.
Je comprends.
Ouais, mais c'est aussi l'étymologie de l'alcool. Hein. Alcool, moi je dis souvent aux patients, c'est un artifice, c'est une illusion, l'alcool. Je pense à une patiente, elle veut devenir plus grande qu'elle est et l'alcool lui permet quelque part de se désinhiber et de parler plus fort que les autres et devenir agressive et elle a l'impression d'exister. Donc c'est donné quelque part, c'est comme si on donnait au patient, que ce soit l'alcool ou un autre produit, le patient a l'impression de vibrer beaucoup plus. Il cherche une vibration là-dedans, d'exister davantage et de vibrer. Donc c'est des êtres qui sont des hypersensibles, des écorchés vifs et qui ont besoin de ces sensations-là. Parce que c'est le propre d'une addiction, hein. Si le circuit de la récompense fout le camp, c'est que le patient prend plaisir au départ à ce produit qui lui apporte de la dopamine, qui lui apporte du plaisir, qui est bon. Faut pas oublier que les produits sont bons au départ, hein. Et après, oui, comme vous le disiez à juste titre, Marie-Vonne, ça devient insidieux et ça devient quelque part, moi je leur dis, hein, vous êtes devenus comme la petite bête qui tourne dans son petit truc là, mais après ils finissent par tourner en rond, mais le cerveau en redemande, il y a une forme d'accoutumance et on en redemande.
Et on en redemande plus?
Ça dépend des patients, on en redemande quelque part, après peu importe le dosage, ça peut être plus pour certains, d'autres ça restera, voilà. L'essentiel c'est que voilà, il y a besoin encore du produit.
Est-ce que y a une histoire génétique dedans?
Ah, ben, maintenant, moi j'aimais beaucoup le schéma de Goodman, qui est un psychiatre américain des années 90, qui n'a pas vieilli son schéma. Il disait, c'est une rencontre entre une personnalité, un environnement. Lui disait le produit, maintenant on peut dire la génétique à la place du produit. Oui, il y a des personnalités, comme je disais tout à l'heure, en début de notre entretien, il y a une histoire de comorbidité psychiatrique, il y a une histoire après au niveau de l'environnement. Quel va être l'environnement? Qu'est-ce qui va influencer quelque part la personne par rapport à sa consommation? Ouais, c'est ce qu'on disait là en parlant de famille. Est-ce qu'il y a des familles plus addictes que d'autres? Et c'est intéressant de voir aussi dans une même famille, plusieurs vont être addicts à différents degrés, pas forcément les mêmes produits. Moi, j'ai pu voir un monsieur, le grand-père, le père était addict à l'alcool. Un des frères, mais on n'en parlait surtout pas, était aussi addict et lui aussi avait une problématique
en alcoolologie. Et alors, pourquoi on ne parlait pas du frère?
Parce qu'il y a des non-dits dans les familles. Il y a des non-dits, pour ça que les génogrammes sont intéressants, pour retricoter tout ça et savoir qui fait quoi, j'oserais dire. Mais oui, il y a des non-dits, il y a des hontes. C'est le suicide, on voyait très bien avant, dans les familles, on n'en parlait pas. C'est un peu comme les filles mères ou autres. Il y a des choses qui étaient taboues. C'est pour ça que les addictions sont beaucoup moins taboues qu'avant. Ouais. Dans les familles, il y a des familles quand même où ça dépend de la génération des parents, mais ça reste encore problématique. Mais c'est mieux de dire, comme vous le disiez en introduction, c'est mieux d'avoir un enfant en bonne santé qu'un enfant qui ne va pas bien.
Ah ben bien sûr, et puis tous les parents, ils préfèrent de se faire retrouver, enfin, s'il y a une descente de la gendarmerie dans un collège et que son fils fait partie de ceux qui avaient...
Ça la fout mal.
Du shit dans son cartable, surtout si les parents sont dans la bonne bourgeoisie et tout, s'ils viennent de ZUP ou de... Enfin, voilà.
C'est pas bon.
Alors, maintenant, on va essayer de s'en sortir, parce qu'il nous reste 4 minutes, c'est pas beaucoup. Oui. Alors, est-ce qu'on peut y arriver tout seul?
Non, jamais. Le patient qui va
c'est
vous dire, c'est pas grave, je contrôle, il contrôle rien du tout. Dites-vous bien haut et fort, pour les auditeurs de RCF, on s'en sort jamais tout seul, il faut être accompagné. Puis on va beaucoup plus loin quand on est plusieurs. Il faut à un moment donné, moi je vois en étant thérapeute, c'est quelque part prendre la place du produit. Petit 1, c'est surtout le patient va mettre des mots par rapport à ce dont il souffre, en sachant qu'on a aussi des patients qui souffrent d'alexithymie. Ce petit mot où il y a encore la thymie dedans, il y a encore l'humeur dedans, ce sont des êtres qui n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs émotions. Donc nos addicts ont du mal à mettre des mots sur les émotions. Donc il y a aussi avant tout ça, avant de se soigner, il faut que le patient sorte du déni. Et là, pour l'entourage, c'est vraiment difficile pour un entourage quand on a des addicts qui vont dire « Non, j'y arriverai tout seul et tout. Non, que nenni, tu n'y arriveras jamais tout seul. Faut te faire aider. Tu vas aller voir quelqu'un. » Et voilà. Je pense que c'est important le temps de dépasser le déni parce que c'est un mécanisme de défense pour le patient, pour la personne qui souffre d'addiction. Après, c'est d'accepter un accompagnement. Dans cet accompagnement-là, il faut d'une part mettre les mots sur ce qu'il ressent. Moi, je sais que mon travail, c'est d'aller chercher la parole du patient. Et j'aime le côté conversationnel, d'être face à face. Voilà, c'est important et d'aller chercher des fois les mots du patient. Parce que l'alexithymie, c'est personnes qui ont du mal à parler. On a souvent des fois affaire à des taiseux. Il faut aller chercher les mots et mettre la parole à la place du produit. Et moi, je suis là aussi pour tout ce process-là et quelque part remplacer aussi le produit. Et je dirais aussi, c'est un peu tabou, c'est important de payer en addictologie. Il y a des services qui sont gratuits, j'ai rien contre. On a aussi des grands précaires. On va pas leur demander de payer comme les autres. Pour l'instant, ils ne peuvent pas, ces gens-là. Il faut d'abord qu'ils se relèvent. Mais je dirais aussi, faut responsabiliser aussi les patients. Une addiction, c'est symboliquement une dette que le patient va payer. Addicérer, ça veut dire aussi les addictions. Addicérer, c'est qu'est-ce qui est non dit. On en parlait à l'instant.
Oui.
Et faire payer le patient, je trouve que ça fait partie aussi du process thérapeutique.
Est-ce que les rechutes sont normales?
Oui, parce que c'est cyclique. C'est cyclique, une addiction est cyclique, c'est un process qui est cyclique. Et il y a des patients, il faudra peut-être 2-3 fois se relever, c'est épuisant parce que se sevrer et vouloir arrêter un produit, c'est épuisant. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc oui, certains patients, s'ils vont faire ce qu'on appelait communément avant la cure, pendant 3 mois, d'autres feront en ambulatoire, d'autres y aura un suivi médical ou autre, ou en libéral, chacun va trouver sa sauce. Mais oui, ça fait partie, c'est connu. C'est terrible aussi pour l'entourage. C'est reparti. Là, l'entourage va se dire, mais c'est reparti. Il rechute, elle rechute. Il faut que la personne se relève et qu'après, qu'elle, pas à pas, qu'elle y arrive. Donc, certaines fois, il faut y aller plusieurs fois.
Moi, j'ai un enfant, vous avez parlé des troubles de l'attention.
Ouais.
Moi, j'ai des enfants qui sont montés sur ressort et des petits-enfants idem. Donc, ça veut, si je vous comprends bien, ça veut dire qu'ils ont plus de chances d'être addict que le fils de ma copine qui restait sur son tapis.
Ah, mais ils seront pris en charge, ils seront pris en charge. Dès l'instant aussi, ils sont montés sur ressort. Après, c'est parce que tous les enfants, je suis pas spécialisée en psycho de l'enfant, hein, Marie-Vaude, mais c'est pas parce qu'on a un enfant qui a de la vie et qui bouge qu'il aura forcément un syndrome, un symptôme de TDAH, de trouble de l'attention. Après, il peut y avoir une inquiétude de la part des parents. Bon, on va pas mettre des symptômes là, il y en a pas forcément. Hein, on est bien d'accord. Vaut mieux un gamin qui court et qui est sportif et qui est en bonne santé. Après, les troubles de l'attention, je pense que les psychologues scolaires au niveau de l'école primaire ont un rôle déterminant là-dedans. J'ai une belle sœur qui l'est. Mais, et après, je pense qu'il y a des traitements. C'est quand même particulier à un enfant qui a des troubles de l'attention et des troubles du comportement. Hein, j'ai une nièce qui est prof d'école. Elle me dit, mais il y a des enfants, c'est insupportable. C'est là aussi le rôle de repérage. Les addictions, c'est aussi un grand problème de repérage en France. Ça, on en reparlera aussi s'il faut. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a le rôle de l'instit qui repère un trouble du comportement. Il y a le rôle du psychologue scolaire qui pourra mettre les mots dessus. Et après, il y a une orientation vers un pédopsychiatre. Hélas, on en manque beaucoup de pédopsychiatres en France. Mais cet enfant sera pris en charge, il n'aura pas. Il sera pris en charge jeune. La question en France, c'est le problème des adultes qui n'ont pas été repérés il y a 10, 20, 30 ans. Et des personnes qui ont souffert aussi toute leur vie par rapport à ça. Enfin, moi, je me souviens d'un enfant d'une collègue qui était déjà sous Ritaline il y a plus de 10 ans d'arrière, quand même, déjà. On les mettait sous Ritaline à l'époque. Et encore maintenant, je crois.
Oui, voilà. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Voilà, malheureusement, oui. Vous aurez encore posé plein de questions.
Merci.
Je pense que les auditeurs en avaient aussi
oui.
des milliers. Malheureusement, pause famille est terminée. Je rends l'antenne à Florian, que je
Merci.
Remercie. Sophie, je vous remercie pour tout
Merci
ce que
Marie-Vaude.
Vous nous avez appris.
L'invitation.
Je donne rendez-vous aux auditeurs la semaine prochaine, même jour, même heure. Si vous voulez réécouter cette émission et la re-re-re-écouter, la balado-diffusion est déjà sur le site. Bonne semaine à tous.
Bonne
et
semaine.
À la semaine prochaine.